Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nine Art Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre « La destruction des Juifs européens », dont le troisième tome appartient à la grande édition française publiée chez Folio Histoire en 2006, est une enquête historique majeure de Raoul Hilberg sur la Shoah. Issu de plusieurs décennies de recherches archivistiques, cet ouvrage ne cherche pas principalement à produire un récit moral ou commémoratif. Il examine les rouages politiques, administratifs, économiques, policiers et logistiques qui ont rendu possible la persécution puis le meurtre de masse. Hilberg étudie le génocide comme un processus graduel conduit par de nombreuses institutions et agents à travers des mesures successives de définition, de dépossession, de concentration et de mise à mort. Le troisième tome doit donc se lire dans la continuité de cette architecture d'ensemble plutôt que comme une histoire isolée. La méthode de Hilberg privilégie les documents produits par les administrations persécutrices afin de reconstruire les décisions, les pratiques et les coordinations concrètes. Cette approche a fait de son travail une référence durable de historiographie de la Shoah, exigeante mais essentielle. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, un génocide analysé comme une chaîne de mesures administratives. La contribution centrale de Raoul Hilberg consiste à montrer que la destruction ne surgit pas soudainement au moment des massacres ou des camps. Elle se construit au moyen de mesures apparemment distinctes, mais reliées entre elles. La définition administrative des personnes visées établie qui doit être exclue. La dépossession retire ressources, emplois, droits et capacités de recours. La concentration, par les séparations et les ghettos, rend les populations plus vulnérables et plus faciles à contrôler. Enfin, les dispositifs de meurtre transforment cette mise à l'écart en anéantissement. Cette séquence ne signifie pas que chaque étape fut partout identique, ni que le résultat fut mécaniquement programmé dès le début. Elle permet plutôt de comprendre comment une persécution peut gagner en intensité lorsque les institutions disposent déjà de catégories, de fichiers, de procédures et de populations immobilisées. Dans le cadre de ensemble formé par les trois tomes, cette analyse évite de réduire la Shoah à la seule figure des dirigeants nazis ou à une série de crimes sans lien. Elle éclaire la continuité entre droits discriminatoires, administration des biens, contraintes de déplacement, police et extermination. Le livre oblige ainsi à prendre au sérieux le rôle de mécanisme ordinaire dans une entreprise criminelle exceptionnelle. Deuxièmement, la bureaucratie nazie comme moteur de coordination et de radicalisation. Hilberg insiste sur le fait que le fonctionnement bureaucratique ne doit pas être compris comme une simple exécution passive de consignes venues du sommet. Ses recherches soulignent la multiplicité des services impliqués et les initiatives prises à divers niveaux pour aller dans le sens attendu par la hiérarchie. Des administrations civiles, des services de police, des autorités locales, des organismes économiques et des structures de transport interviennent selon leurs compétences propres. Cette répartition ne diminue pas la responsabilité des dirigeants, mais elle explique comment la persécution a pu être appliquée sur une vaste échelle sans que chaque opération dépende nécessairement de directives détaillées et écrites. Le troisième tome prend place dans cette démonstration générale de la capacité administrative à coordonner exclusion, déplacement et destruction. La force de cette perspective est de rendre visible le travail des dossiers, des décrets, des communications internes et des procédures. Ces pièces montrent que la violence de masse a aussi exigé classement, financement, planification et coopération institutionnelle. Hilberg ne présente donc pas la bureaucratie comme neutre ou extérieure au crime. Il établit au contraire que les routines administratives peuvent devenir des instruments de persécution lorsqu'elles servent un objectif racial et exterminateur. Cette leçon historique permet de comprendre pourquoi la division des tâches ne constitue jamais une disparition de la responsabilité. Troisièmement, les actions mobiles et les centres de mise à mort dans une même politique, l'ouvrage distingue deux formes majeures de mise à mort, sans les opposer comme si elles relevaient de deux histoires séparées. Les actions mobiles de tuerie, notamment conduites derrière le front de l'Est à partir de 1941, constituent un mode direct de massacre des populations juives. Les centres de mise à mort organisent, quant à eux, une destruction fondée sur la déportation, la sélection des victimes et des installations conçues pour tuer à grande échelle. Cette distinction est indispensable pour éviter une vision limitée de la Shoah aux seuls camps les plus connus. Une part considérable des victimes fut assassinée par fusillades et autres opérations mobiles, dans des contextes liés à invasion, à occupation et à contrôle territorial. Mais Hilberg met aussi en évidence la relation entre ces méthodes. Toutes deux reposent sur des institutions capables de repérer les personnes, de les isoler, de les transporter ou de les rassembler, puis de dissimuler ou administrer les conséquences du meurtre. La comparaison montre que le génocide nazi a combiné plusieurs techniques, selon les territoires, les périodes et les contraintes de guerre. Elle empêche également de traiter la technologie des camps comme une explication suffisante. Les dispositifs matériels comptent, mais ils ne remplacent ni la décision politique, ni la mobilisation des services, ni la participation de nombreux exécutants. La destruction apparaît ainsi comme une politique adaptable, non comme un modèle unique. Quatrièmement, une enquête fondée sur les archives des institutions persécutrices, la méthode de Hilberg explique la place particulière de son livre dans les études sur la Shoah. Plutôt que de commencer par de vastes interprétations générales, il reconstruit les mécanismes à partir de documents administratifs, de règlements, de correspondances, de statistiques, de rapports et de traces produites par les institutions allemandes et leurs relais. Ce choix permet de suivre les opérations dans leur matérialité. Il devient possible de voir comment une mesure est formulée, transmise, appliquée, modifiée ou contournée. Cette attention aux sources éclaire les interactions entre organismes qui ne poursuivent pas tous exactement les mêmes intérêts, mais concourent à une politique de persécution. Elle donne également au livre sa densité et sa difficulté. Le lecteur rencontre moins une narration continue qu'une démonstration appuyée sur la circulation des décisions et sur les effets concrets des procédures. Cette approche comporte une exigence éthique et intellectuelle, ne pas laisser les abstractions masquer les opérations qui ont rendu le crime possible. Elle remplit toutefois une autre fonction essentielle, celle de documenter les structures des persécuteurs, dans la série dont relève ce tome. Cette rigueur archivistique fournit un cadre solide pour analyser un génocide à échelle continentale sans confondre mémoire, jugement moral et preuve historique. En dernier lieu, les apports et les limites d'une histoire structurelle de la Shoah. La destruction des Juifs européens se distingue par une focale structurelle. Hilberg cherche à expliquer comment une machine de persécution et de meurtre a fonctionné. Cette orientation produit un apport majeur car elle met en lumière des acteurs institutionnels souvent moins visibles que les principaux chefs nazis. Elle montre aussi que les catégories administratives, les intérêts économiques et les exigences logistiques ne furent pas des détails périphériques, mais des conditions de possibilité de la destruction. En revanche, cette méthode peut paraître aride et parfois distante au lecteur qui attend avant tout des récits individuels, des témoignages ou une histoire centrée sur les expériences juives. Cette limite tient moins à une absence de gravité morale qu'au choix précis de objet comprendre les mécanismes des persécuteurs. Il est donc utile de lire Hilberg avec des travaux consacrés aux victimes, aux survivants, aux résistances, aux sociétés occupées et aux mémoires du génocide. La valeur du livre réside précisément dans cette spécialisation analytique. Il ne prétend pas épuiser toutes les dimensions humaines de la Shoah par une seule perspective. Il fournit une charpente historique permettant de situer les autres approches. Le lecteur comprend alors pourquoi les décisions criminelles ne furent pas seulement portées par une idéologie déclarée, mais traduites en opérations répétées par des institutions. Enseignants et lecteurs déjà disposés à affronter une histoire documentaire longue et méthodique de la Shoah. Il peut également être très utile aux lecteurs de non-fiction qui souhaitent dépasser une connaissance limitée aux grandes dates, aux dirigeants nazis ou aux camps les plus célèbres. Son bénéfice intellectuel principal est de donner des instruments pour analyser la transformation graduelle de la discrimination en génocide catégorie juridique, expropriation. Regroupement, transport, institutions de police et dispositifs de mise à mort y apparaissent comme des éléments liés. Cette lecture apprend à distinguer les intentions idéologiques, les décisions politiques et les capacités concrètes de l'administration. Elle rappelle également que la responsabilité historique ne se réduit pas aux seuls auteurs des ordres les plus visibles, par rapport aux synthèses plus narratives, aux recueils de témoignages ou aux ouvrages centrés sur un lieu particulier. Hilberg se démarque par ambition son de cartographier le fonctionnement global de la destruction à échelle européenne. Sa force est la rigueur avec laquelle il relie des archives dispersées à une analyse des structures. Sa difficulté est la même, le texte demande attention, temps et parfois des connaissances préalables. Mais cette austérité est productive. Elle empêche une compréhension abstraite du génocide et montre comment une violence idéologique a été rendue praticable par des institutions ordinaires. Des procédures répétées et une coordination étendue. C'est en cela que cet ouvrage demeure une référence historique singulière. Si vous souhaitez soutenir Raoul Hilberg, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast.